Chapitre 14. Sibrit de Majahi, épouse de Menati Imperator. De nombreuses interrogations subsistent au sujet de celle qui fut la première dame de Langempire de l'an 1 à l'an 16. Elle avait épousé le seigneur Ranti Hang en première noce, mariage qui servit principalement à apaiser les populations de la province de Majahi, encline à la rébellion. Puis, à la mort du seigneur Ranti Hang, à l'issue d'un complot qu'elle est soupçonnée d'avoir fomenté, elle devint l'épouse de Menati Imperator, auquel, malgré l'insistance des douairières du palais impérial, elle ne donna aucun héritier. Le mystère de la disparition de la dame Sibrit n'a jamais été élucidé. Elle cessa de paraître à la cour à la suite d'un scandale qu'elle avait elle-même orchestré. Elle obligea Dame Véronite de Motohor, une courtisane de haute noblesse, à déambuler entièrement nue dans les couloirs du palais, en l'an 16. L'impératrice fut-elle victime de la vengeance des Motohor, comme le soutiennent certains historiens? À l'opposé de cette hypothèse, certains éléments permettent de penser qu'elle fut traduite devant un tribunal sacré pour fait de sorcellerie et que la sentence, la supplice de la croix de feu à combustion lente, fut appliquée sur une place publique de Romantiga, le cœur historique de la cité impériale. Anatul Ujiak, le grand érudit néo-européen, prétend quant à lui qu'elle tomba dans un piège tendu par le sénéchal Harcot. Elle prit un effacé pour amant, un homme dans l'esprit duquel les Skaïtes avaient implanté un programme mental d'assassinat. Lorsque la deuxième épouse de Menati Imperator, Dame Anit Pasit Pahir, de l'an 16 à l'an 23, décida de refaire la décoration de ses appartements, les ouvriers exhumèrent de multiples cadavres ou squelettes des murs et sous-sols des quartiers de l'impératrice. On comprit alors que les rumeurs les plus folles qui avaient couru sur le compte de Dame Sibrit n'étaient que l'expression de la terrible vérité, et que ses nombreux surnoms, l'impératrice rouge, la provinciale sanguinaire, la putain démoniaque, la gourgandine infernale, etc., étaient justifiés. Elle se baignait bel et bien dans le sang frais des hommes qu'elle attirait dans sa chambre. Elle les étranglait à l'aide d'un filin magnétique au moment précis où ils s'abîmaient dans l'extase, et les égorgeait ensuite avec ses ongles et ses dents. On sut à ce moment-là quel monstre avait abrité le palais impérial, et on plaignit Menati Imperator. L'histoire du Grand Hang Empire. Encyclopédie Unimentale. Escorté de ses quatre protecteurs de pensée et de Dame Alakaïd de Flel, sa fidèle dame de compagnie, Dame Sibrit s'engagea résolument dans le large couloir habillé d'un turco-marbre bleu veiné d'optallium gris. Disposés à intervalles réguliers, les gardes de faction en uniforme de grand apparat, col en corps et manteau pourpre, bicorne noire surmontée d'un panache blanc, hautes bottes dorées, large sable aux pommeaux incrustés de gemmes, claquaient des talons et se fendaient de profondes révérences sur son passage.
« C'est de la folie, madame, de la folie! « Retournons dans vos appartements, je vous en conjure !»
ne cessait de geindre Dame Alakaïd. Dame Sibrit avait passé une large cape de tissu vie directement sur son col en corps de nuit. Elle en avait remonté le col évasé et l'avait maintenu fermé avec une broche d'optallium rose. Elle n'avait même pas pris la plus élémentaire coquetterie de ceindre sa tête d'une couronne eau lumineuse, de se poudrer le visage, et de tirer deux réglementaires mèches de cheveux hors de son cache-tête. Dame Alakaïd, quant à elle, s'était changée et maquillée à la hâte, mais pas davantage que d'habitude elle n'était parvenue à donner un semblant de grâce à sa personne. Des nuées de bulles lumière flottaient sous le plafond orné de moulures et de gigantesques fresques qui représentaient des scènes de guerre artibanique. Ça et là, derrière les colonnes de style Hang, base large, tore ventru, fût droit et chapiteau annelé, s'agitaient les silhouettes furtives de serviteurs en livrée blanche et de grands courtisans. Ces derniers hantaient le palais impérial jusqu'à la première aube,
comme si, non content de vivre au crochet de Langempire via les prébendes, il poussait la perversité jusqu'à se nourrir du sommeil et des rêves de Menati Imperator. Dame Cybrite ne leur accorda pas un regard, ni de complicité, ni de mépris. Elle avait pris un certain plaisir à jouer de leurs intrigues, à les dresser les uns contre les autres, mais ils ne la divertissaient plus désormais. Ils ne réussissaient même plus à s'en faire détester. Ils n'étaient que des ectoplasmes, des images holographiques intégrées dans le décor, des spectres perdus dans le labyrinthe du palais et dans les méandres de leur langage et de leurs gestes à triple, quadruple ou quintuple sens. Ils pensaient faire partie de l'élite de l'Empire. Ils s'imaginaient vivre des moments historiques. Ils se tenaient le plus près possible de la source impériale pour s'abreuver de la grandeur de Syracusa. Ils croyaient être les paragons des modes, des mœurs et des convenances, et ils vivaient à l'extérieur d'eux-mêmes comme des témoins suffisants de leur propre vide. Les couloirs qu'ils arpentaient étaient principalement ceux de leur vanité. Ils étaient tellement affairés à paraître qu'ils oubliaient d'être, et ils passaient à côté de l'histoire. Ils ne devinaient rien de ce qui se tramait dans les sous-sols du palais impérial et de l'ancien palais seigneurial Ferkti-Hang. Un rêve hideux avait jeté Dame Cybrite hors du sommeil et l'avait décidé à rendre une visite impromptue et nocturne à son auguste époux. Ce rêve, elle le savait, n'était que l'expression de la réalité, d'une terrible réalité. Depuis plus de 12 ans, un personnage des contes de Majahi avait surgi de sa lointaine enfance et l'avait régulièrement visité pendant son sommeil. Walhua, le petit ours ygre à la fourrure d'optallium rose, aux yeux d'émeraude et aux griffes de diamant, était devenu le guide omniprésent de son inconscient. Il s'y promenait en toute liberté et ouvrait les portes des pièces cachées qu'il lui plaisait de visiter. Et ces portes donnaient le plus souvent sur une femme, un homme et une fillette, qui vivaient sur une petite planète bleue des confins, près d'un immense massif montagneux. Ils résidaient dans un village érigé autour d'un buisson aux fleurs brillantes. En dehors de leur maison, les autres constructions de pierre et de bois étaient abandonnées. Valua s'intéressait visiblement à leur histoire. Dame Cybrite ignorait qui étaient ces trois personnages aux allures de héros mythiques du grand livre Lumière du Chevalier des Étoiles. Mais quelque chose lui disait qu'ils étaient bien réels, qu'ils évoluaient dans le même espace-temps qu'elle. Ils paraissaient attendre le retour de quelqu'un, d'un fils disparu peut-être. La petite fille avait un regard étrange, un regard qui englobait l'univers. Elle s'agenouillait devant le buisson aux fleurs lumineuses et recensait les millions d'étoiles qui, jour après jour, s'abîmaient dans le vide infini et glacial. L'homme et la femme grimpaient sur la montagne, s'asseyaient sur les rochers et se plongeaient dans de longues périodes de silence pendant lesquelles ils restaient totalement immobiles. Que faisaient-ils? Que cherchaient-ils? Valhua, curieux, avait tenté de s'introduire dans leur esprit pour le savoir. Mais un son brûlant, une insupportable vibration, l'avait obligé à battre en retraite. Depuis quelques mois, le petit oursigre ne se manifestait que de manière épisodique, et les rêves de l'impératrice avaient repris leur cours antérieur. Privé de guide, il partait de nouveau dans tous les sens. Elle avait ainsi vu le jeune Syracusain Marty de Kervaleur. Elle avait pourtant essayé de mettre en garde les Kervaleurs, l'un des rares couples de courtisans qu'elle appréciait, contre les coupables agissements de leur fils. Ramper dans des conduits noirs et sales, saboter le système d'oxygénation d'une ville de l'espace. Elle avait vu un petit garçon de 8 ou 9 ans apaiser miraculeusement une horde d'animaux féroces. Elle avait vu une émeute dans les rues d'une cité de toile, une réunion secrète entre un jeune cardinal chrétien et des vicaires dans un sombre caveau. Autant d'événements qu'elle ne parvenait pas, pour l'instant, à relier les uns aux autres, mais dont elle restait persuadée qu'ils avaient un rapport entre eux. Et puis, cette nuit, Valua était revenue et elle avait vu l'horreur.
Dame Sibrit et Dame Alakaït approchaient des appartements de l'empereur. Les gardes, les agents civils de la sécurité et les Skaït assistants ou protecteurs se faisaient de plus en plus nombreux.
« Par pitié, madame, » gémissait la dame de compagnie, « retournons dans vos appartements. Vous allez me faire mourir. »
Chère Alakaït, dont la frayeur permanente n'avait d'égal que la loyauté. Elles croisèrent un groupe de douairières en grande conversation devant une fontaine parfumée. Ces punaises d'Hécatie complotaient à toute heure du jour et de la nuit. C'était leur unique raison de vivre. Nul mari, nul amant, nul enfant ne les attendait, et plutôt que de se retirer dans la solitude glacée de leur chambre, elles préféraient se réchauffer en mots inutiles et en projets insensés. Dame Sibrit se demandait parfois où elle trouvait le temps de dormir. Elle ne se couchait pas peut-être parce qu'elle craignait de ne pas se réveiller, empoisonnée par leur propre fiel. Contrôle à PD oblige, elles s'efforcèrent de diluer le venin des regards qu'elles décochèrent à l'impératrice dans des sourires figés et des révérences onctueuses. Elle ne lui pardonnait pas son refus du prélèvement de ses ovules. Elle ne lui pardonnait pas d'être belle, hautaine, intelligente, rebelle. Elle ne lui pardonnait rien parce qu'elles étaient incapables de pardonner, incapables de ressentir autre chose que de la rancœur et du mépris. À force de manœuvre, elles avaient obtenu l'exil de Xaphit, la fille de Dame Sibrit et du seigneur Ranti. Elle faisait à présent le siège méthodique du moufti Barofil le 24e pour qu'il consente à annuler le mariage de Menati Imperator et de la provinciale, considérée par toute la cour comme une erreur tragique. Dame Sibrit, qui ne détestait pas les provoquer, passa devant elle sans même feindre d'avoir remarqué leur présence. Petite démonstration de dédain qui, conjuguée à l'audace de sa tenue et de sa démarche, suffirait à les occuper pendant un bon mois. À l'extrémité du couloir se dressait la porte monumentale des appartements de l'empereur, surmontée d'un linteau de marbre blanc sur lequel était gravée en lettres diamantines la devise de la famille Hang. Pour le beau et pour le bien. Ici, le carrelage de turco-marbre était tellement poli qu'il réfléchissait comme un miroir géant les moindres reliefs et sculptures de la porte de bois de Rajanthal. À proximité des quartiers privés de Menati Imperator, régnait une agitation intense, désordonnée, bruissante. Serviteurs, cardinaux, skaïtes de la Sainte Inquisition, courtisans, officiers supérieurs de l'interlice, historiographes officiels, artistes de renom, se bousculaient devant l'identificateur cellulaire serti dans le linteau de marbre. L'intrusion inopinée de Dame Sibrit et de sa dame de compagnie glaça tout ce beau monde. Un silence épais tomba soudain sur le couloir et des dizaines de regards incrédules, choqués, sauf bien entendu les regards neutres des maîtres de l'autopsyché défense, se posèrent sur les deux femmes et leurs protecteurs de pensée. Les familiers du palais impérial n'étaient guère habitués à ce genre d'insolence. Ce n'était pas à l'impératrice de rendre d'officieuses et impromptues visites au seigneur absolu de l'univers, mais à celui-ci de la convoquer par voie officielle lorsque tel était son souverain plaisir. Ainsi le voulait l'étiquette. Dame Sibrit était certes réputée pour son caractère imprévisible. Chez elle, la paritole se confondait avec la provinciale. Et ses frasques, mais elle n'avait encore jamais eu l'audace de se présenter nuitamment chez son auguste époux sans avoir au préalable sollicité l'autorisation des maîtres du protocole. Toutefois, les réprobateurs se gardèrent bien de dévoiler le fond de leurs pensées. Ils s'inclinèrent respectueusement, comme le conseillait la condition noble et grassement rémunérée de grands courtisans. Il ne s'agissait pas de déplaire, d'une manière ou d'une autre, à la provinciale et d'aller grossir le lot des familles frappées de disgrâce impériale. On n'aimait pas Dame Sibrit, mais ce n'était pas une raison pour scier la branche sur laquelle on était confortablement assis. S'il prenait l'absurde fantaisie à la première dame de Langempire de vous haïr,
Cela pouvait signifier le commencement d'un interminable exil. Un grand courtisan se considérait en exil dès qu'il se sentait indésirable dans l'enceinte du palais, dans le Saint des Saints, dans le paradis impérial. C'est donc sans encombre que Dame Cybrite et son escorte franchirent le seuil de la porte principale des quartiers privés de Menati Imperator. Aucun garde ne s'avisa de la prier de passer sous l'identificateur cellulaire, ce qui eût constitué une forme déguisée de suicide. Elle pénétra dans le premier vestibule, où se pressait une foule de serviteurs, de courtisans ou de scaïtes qui, comme ceux qui étaient restés dans le couloir, se figèrent lorsqu'ils l'aperçurent. Elle picora quelques visages des yeux, reconnut des représentants des grandes maisons vénitiennes, parmi eux Bourfi de Kervaleur et Jokiri Pacit Pahir, deux hommes dont les familles avaient été éclaboussées par l'énorme scandale du Machama. Elle entrevit également des femmes outrageusement fardées, des amies ou des rivales déclarées, dont le seul but était de se faufiler, au moins une heure dans leur vie, dans le lit de Menati Imperator. Celles-là ne purent s'empêcher de faire grise mine malgré le déploiement instantané de leur contrôle APD. Ce n'était pas cette nuit qu'elles auraient l'honneur d'être couvertes par le maître absolu de l'univers. Elles devraient se contenter de ranimer les ardeurs défaillantes ou fuyantes de leurs époux légitimes, ou encore d'assouvir le désir frénétique de quelques jeunes prédateurs guettant une proie esselée et facile. Le vestibule s'était tout à coup peuplé de statues. Des murmures s'insinuèrent dans le silence glacial.
« Rebroussons chemin, madame !»
chuchota la caïde de Flel, alarmée par les regards assassins qui prenaient sa maîtresse pour cible. La dame de compagnie savait pertinemment que ses exhortations resteraient lettre morte. Cette escapade nocturne n'était qu'une épreuve à ajouter à la longue liste des frayeurs que lui avaient occasionné les lubies de l'impératrice. Les deux femmes et leurs protecteurs contournèrent la fontaine centrale du vestibule, dont les jets alternés composaient une symphonie mélodieuse et nostalgique. Une dizaine de portes, moins grandes que la porte principale mais tout aussi surchargées de motifs sculptés, se découpaient sur les murs habillés de tentures hauts aux motifs changeants. Les rayons des bulles lumière, soufflés par d'imperceptibles courants d'air, se superposaient et formaient des figures géométriques entrelacées et fugaces. Les statues reprenaient vie, s'inclinaient et se reculaient d'un pas lorsque Dame Cybrite sollicitait le passage. Elle se dirigea vers une porte située sur la droite de la fontaine, celle qui donnait sur le conversoir de la chambre de l'empereur et que protégeait une imposante escouade de la garde pourpre. D'un geste précis, elle glissa la main dans une niche ogivale et pressa le bouton d'ouverture. Dans l'incertitude, les gardes recouvrèrent leurs réflexes militaires et se raidirent en un impeccable garde-à-vous. Toujours suivie de Dame Alakaïte de Flel et de ses protecteurs, l'impératrice s'engouffra dans le conversoir, une pièce exiguë, baignée de lumière bleue et meublée de confortables fauteuils à suspension d'air. Des écrambules de l'HO, l'holovision officielle, posée sur des étagères auto-suspendues, diffusaient en boucle un reportage sur les hauts faits de Menati Imperator. Comme toujours, Dame Cybrite fut amusée de se reconnaître dans l'un des minuscules personnages qui s'animaient à l'intérieur des bulles. Un maître du protocole, un homme au visage et aux vêtements sévères, jaillit comme un diable commodien d'un recoin sombre du conversoir et se précipita vers elle. Tant était grande sa surprise que sa révérence se transforma en une courbette fort peu protocolaire, indigne de sa fonction. « Madame, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre visite? L'empereur m'a expressément recommandé de ne laisser entrer personne. Monsieur, il ne parlait probablement pas de son épouse, » répliqua-t-elle d'une voix cassante. Le maître du protocole se redressa. Ses yeux fuyants et la moue qui étirait ses lèvres fardées de nacrelle noire trahissaient son embarras. La stupeur avait fait voler en éclats les principes de base de son contrôle mental. Il lui était relativement facile de filtrer les courtisans,
hommes et femmes qui sollicitaient une entrevue particulière avec Ménati Imperator, mais l'apparition soudaine de l'impératrice lui procurait la désagréable sensation d'être coincé entre un marteau et une enclume. Désobéir à l'empereur, c'était perdre sa confiance et être banni dans une aile mineure du palais, voire dans un autre palais. Résister à l'impératrice, c'était s'attirer ses foudres et être précipité dans les affres de la déchéance. Dans un cas comme dans l'autre, il risquait fort de perdre ses privilèges, acquis au prix de manœuvres aussi savantes que sournoises.
« Partons, madame, » souffla la caïde de Flel. « Nous mettons cet homme dans l'embarras. »
Chère à la caïte, toujours prête à compatir au malheur d'autrui.
« Vous m'attendez ici en compagnie de mes protecteurs, » dit Dame Cybrit. « Ménati Imperator est mon époux légitime, et je n'ai aucun ordre à recevoir de sa valetaille. Veuillez saisir le code d'ouverture du sas, monsieur. »«
Madame, je vous en conjure.
Exécutez-vous, monsieur, ou dès la première aube, je m'occupe personnellement de votre avancement. »
Une pâleur mortelle se déposa sur le visage du maître du protocole. À pas lent, lourd, le dos voûté comme s'il portait toute la misère de l'univers sur les épaules, il se rendit à proximité du sas blindé. Une ouverture arrondie et recouverte d'une feuille d'optallium doré, et extirpa un boîtier de commande de la poche de sa cape. Ses doigts effleurèrent une succession de touches à reconnaissance cellulaire. Un double claquement brisa le silence feutré du conversoir. Le sas s'entrebâilla et, sans tenir compte de la détresse du maître du protocole ni du regard suppliant de Dame à la caïde de Flel, Dame Cybrit pénétra dans la chambre de l'empereur. Ménati Imperator ne vit ni n'entendit entrer l'impératrice. Il ne fallut que quelques secondes à Dame Cybrit pour identifier la jeune femme nue qui, vautrée sur lui, accaparait tous ses sens. C'était la cadette des Motors, Véronite, une redoutable intrigante, une vipère au crochet venimeux. Elle était mariée à Jokiri Passit Pahir, que l'impératrice avait aperçu dans le vestibule et dont la jeune sœur, Anit, avait été prise dans la rafle de l'arc de Bella Syracusa. Jokiri Passit Pahir avait probablement poussé sa femme dans les bras de l'empereur pour négocier la grâce de sa jeune sœur, et il avait apparemment obtenu satisfaction, puisqu'Anit avait été libérée et que les cérémonies de son mariage avec le jeune Aymar Singal allaient se tenir dans 3 ou 4 mois. Jokiri Passit Pahir n'avait sans doute pas prévu que Dame Véronite pousserait la conscience professionnelle jusqu'à payer de sa personne pour rendre grâce à la mansuétude de l'empereur. Dame Cybrit observa distraitement les corps enlacés de Ménati et de Véronite. Leur blancheur immaculée tranchait sur le violet soutenu des draps de soie. Leurs soupirs ponctuaient les frottements de leurs peaux moites et le bruissement des multiples fontaines excavées dans les murs de marbre blanc. Les colonnes torsadées du baldaquin oscillaient légèrement au mouvement ample et synchronisé des amants. Dame Cybrit n'éprouvait aucune jalousie devant ce spectacle. Il y avait bien longtemps qu'elle ne ressentait plus que de l'indifférence vis-à-vis de son auguste époux. Leur amour s'était consumé comme un feu de brindilles sèches et s'était très rapidement transformé en un monceau de cendres froides dispersées par les mornes vents de l'ennui. Les fesses de Dame Véronite, parcourues de vagues adipeuses, étaient plus volumineuses que ne le laissaient supposer ses tenues, étudiées pour mettre en valeur sa sveltesse. En revanche, pour une femme dont les admirateurs vantaient la poitrine d'airain, ses seins se révélaient étrangement menus et flasques. Et lorsqu'on avait le privilège d'entrevoir sa toison pubienne, on se rendait compte que la cascade flamboyante de sa chevelure rousse n'était peut-être pas aussi naturelle qu'elle le prétendait. Quant à Ménati Imperator, il s'empâtait à vue d'œil. Le corps délié, musclé, que Dame Cybrit avait autrefois tenu dans ses bras, s'ornait à présent de bourrelets peu saillants. Les contorsions savantes et les ondulations du bassin de Dame Véronite le tout puisé dans l'ouvrage de référence en la matière des 7 règles majeures de la pratique amoureuse de l'illustre Gerhard de Van Gouve, n'arrachait pas la moindre grimace d'extase à l'empereur. Dame Sibrit estima que la comédie avait assez duré. « Monseigneur !» Dame Véronique tressaillit, se retourna. Lorsqu'elle aperçut l'impératrice, elle poussa un cri et ses yeux noisettes s'agrandirent d'effroi. Son contrôle mental, il est vrai mis à mal par les assauts de Ménati, s'effilocha comme un nuage déchiré par le vent. Elle roula sur elle-même, s'immobilisa sur le côté opposé du grand lit et rabattit un pan de drap sur son corps. Tremblante, glacée, elle demeura immobile, espérant sans doute se réveiller dans sa chambre et constater que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. Ménatine ne chercha pas à couvrir sa propre nudité. Nudité animale, sacrilège, qui, en théorie, pouvait conduire tout droit devant un tribunal sacré et à l'intérieur d'une croix de feu. Son sceptre impérial, sceptre dont la taille et la vigueur étaient l'objet secret de bon nombre de conversations féminines, perdit rapidement de sa superbe. Il tourna simplement la tête vers son épouse et la fixa d'un air las.
« On ne peut pas dire que votre visite tombe au meilleur moment, madame, » dit-il d'un ton morne. « Voyez, vous avez terrorisé cette jeune personne. »
« Cette jeune personne, comme vous dites, est une catin, » répliqua froidement Dame Sibrit. « Elle a un cul de chigalin, des petits seins, et de plus, elle se teint les cheveux. »
Ménati Imperator se redressa sur un coude et fronça les sourcils.
« Je ne vous connaissais pas ce langage ordurier, madame. Est-ce votre naturel provincial qui revient au galop ?»«
Je ne vous connaissais pas ce goût déplorable dans le choix de vos putains, monseigneur. Vous avez conservé vos habitudes de soudard. »«
Il suffit, madame. Vous n'étiez pas invitée à vous introduire chez moi, et si vous ne voulez pas que je vous fasse chasser séance tenante, veuillez rester dans les limites de la décence. »
Dame Sibrit contourna le pied du lit, saisit un coin du drap et, d'un geste brusque, découvrit le corps de Dame Véronite. « Le sieur Jokiri Passit Pahir vous attend dans le grand vestibule, Dame Véronite. À l'avenir, épargnez votre peine. Sa jeune sœur Anit a déjà reçu le pardon de l'Église. Nous, première dame de l'univers, avons à nous entretenir en privé avec notre impérial époux. » Dame Véronique se leva et se rua vers le couloir d'accès à la salle des ondes lavantes et délassantes où l'attendaient ses vêtements.
« Non, non, madame !» dit Dame Sibrit d'une voix forte. « Sortez tel que vous êtes. Il est temps que vos chantres puissent juger de la réalité de vos charmes. »
Épouvantée, Dame Véronique lança un regard implorant à Ménati Imperator, mais il n'intervint pas. D'une part parce qu'il ne se sentait ni l'envie ni la force de contrarier son épouse, d'autre part parce que l'idée de lâcher une courtisane entièrement nue dans les couloirs du palais le séduisait. Le scandale qui en résulterait le dédommagerait des piètres performances amoureuses de Dame Véronite. Elle ne s'était pas montrée à la hauteur des espérances qu'avaient suscité ses mines enjôleuses et ses promesses verbales. La seule créature qui ait jamais réussi à réjouir les secondes nuits de Ménati Imperator, c'était sa propre femme, Dame Sibrit. La tête basse, les larmes aux yeux, Dame Véronique sortit par le sas d'un couloir qui donnait directement dans le vestibule et dont Ménati déclencha l'ouverture automatique par l'intermédiaire du boîtier de commande posé sur sa table de nuit.
N'est-ce pas vrai qu'elle a un cul de chigalin? Vit Dame Sibrit avec un petit sourire.
L'image est un tantinet osée, mais je dois admettre que vous avez raison, madame. La pauvre risque de se laisser mourir dans ce couloir plutôt que d'affronter les regards de la cour.
Rassurez-vous, monseigneur, même chez les motors, la faim et la soif sont plus fortes que la honte.
Dame Sibrit s'assit sur le rebord du lit et laissa errer son regard sur les murs de marbre blanc, sur le tapis d'orange, sur les fontaines d'optallium, sur la baie ogivale et vitrée qui donnait dans le jardin privé. Elle songea avec nostalgie que cette pièce avait autrefois abrité leurs étreintes, leurs baisers, leurs tendres serments.
« Je suppose que vous n'avez pas bafoué la moitié des règles de l'étiquette impériale pour m'entretenir du fessier de dame de Motor, »
reprit l'empereur. « Je suis venu vous parler d'un rêve, monseigneur. »
« Un rêve. Vous avez traversé tout le palais, défié les maîtres du protocole et cruellement privé l'empereur de son plaisir pour me raconter un rêve. Vous moquez-vous de moi, madame ?»
Dame Cybrite se leva et s'approcha de la baie vitrée. « J'avais fini par oublier la magnificence de ce jardin, » murmura-t-elle rêveusement. La lumière tamisée des innombrables projecteurs de sol jouait dans les pétales évasés et translucides des fliottes de nuit, se réfléchissait à l'infini sur les gemmes des allées, ruisselait dans les cascades brillantes de la grande fontaine de pierre noire. Elle se remémora les longues secondes nuits passées dans les senteurs capiteuses et les bruits ensorceleurs du jardin privé de l'empereur. Ils avaient fait l'amour sur l'herbe fuchsia, comme des animaux, comme des primitifs. Les effleurements du vent Coriolis, conjugués aux caresses enfiévrées de Ménati et aux délicieux frissons de l'interdit, lui avaient procuré des sensations d'une intensité rare. Elle avait attiré des hommes dans ses quartiers pour tenter de renouer avec ces merveilleux instants de plaisir et d'abandon, mais elle n'avait retiré d'eux que déception et dégoût. Ils se montraient mollassons dans tous les sens du terme, comme s'ils avaient dû renoncer à leur virilité, à leur vitalité, pour endosser l'habit de courtisan. Elle avait besoin de violence, elle aimait goûter la saveur âpre de la sueur et du sang. Elle voulait être prise avec fureur, avec douleur, et eux s'égaraient en attouchements délicats, en frôlements recherchés, en interminables jeux de langues et de mains, en préliminaires inutiles et fastidieux. La prose affectée de Gerhard de Van Gouve, le grand érudit, avait fait un tort considérable à la profession d'amant.
« Eh bien, madame, j'attends vos explications. » fit Ménati Imperator d'un ton impatient.
Dame Cybrite se retourna avec vivacité. Des lueurs farouches dansaient dans ses splendides yeux turquoises. « Je dois au préalable vous faire l'aveu d'un de mes secrets. »«
Si vous songez à vos innombrables amants, madame, je crains que votre confession ne soit parfaitement inutile. » Il y a bien longtemps que je suis informé des jeux intimes et secrets que vous organisez dans vos appartements. Je les ai tolérés parce que j'ai une tendance coupable à vous témoigner de l'indulgence. Souvenir nostalgique, peut-être, de nos ébats sur l'herbe de ce jardin. En revanche, je n'ai pu avoir confirmation des folles rumeurs qui courent sur votre compte. On prétend que vous faites égorger les hommes qui ne vous donnent pas satisfaction et que vous vous baignez dans leur sang. Mes informateurs ne sont pas parvenus à démêler le faux du vrai dans ces bruits. Mais ils ont eu la confirmation que des hommes de cour, des fils de famille, des officiers supérieurs et même de simples serviteurs ou gardes ont disparu dans des circonstances mystérieuses, sans laisser de traces.
L'univers est vaste, monseigneur, soupira Dame Cybrite en haussant les épaules, et les hommes sont parfois saisis d'envie subite de l'explorer. Ménati se leva à son tour et, toujours nu, vint rejoindre son épouse devant la baie. Ses yeux noirs et luisants s'immergèrent dans les lacs d'eau claire de son interlocutrice.
« Prenez garde, madame, » lança-t-il d'une voix sourde. « Le titre d'impératrice ne donne pas tous les droits. »«
Certes, monseigneur, mais le titre d'empereur, lui, donne tous les devoirs. »«
Précisez votre pensée. »«
Mon secret concerne mes rêves et non mes amants. »« Que vous me fassiez surveiller, soit, mais vous devriez changer d'informateur. »« Il manque terriblement de discrétion. » Et sur l'oreiller,
il ne résiste pas au plaisir de se raconter. Mes songes, disais-je, sont prémonitoires.
Diantre, vous commencez vraiment à m'effrayer, madame.
Si je voulais cacher jusqu'alors, c'est que je craignais le jugement de l'église du Kreutz. Les inquisiteurs considèrent les prémonitions comme des reliquats de sorcellerie. Je voulais éviter le scandale que n'aurait pas manqué de provoquer le procès en sorcellerie de la première dame de Langempire. Mais en cette seconde nuit, je ne puis plus me taire. Elle jeta un bref regard autour d'elle. « Vos appartements sont-ils sûrs, monseigneur ?» De la main, Menati Imperator lui fit signe de l'attendre et s'éclipsa dans la salle des ondes lavantes. Il en revint une minute plus tard enveloppé dans une ample cape de nuit blanche.
« Allons dans le jardin, puisque vous semblez tant l'apprécier. »
« Vous sortez sans col encore, monseigneur ?»«
Ce n'est pas la première fois que je sache. Vous ne me posiez pas ce genre de questions lorsque vous m'entraîniez impatiemment sur l'herbe fuchsia. »
Le jardin attenant à la chambre de Menati Imperator était clos de murs et en principe inaccessible aux regards indiscrets. Toutefois, les grands courtisans et les cardinaux de l'église faisaient preuve d'une telle curiosité qu'il s'en trouvait probablement d'aucuns qui, au prix de quelques ingénieux stratagèmes, épiaient en ce moment même les faits et gestes de leur souverain. Dame Sibrit et Menati Imperator se dirigèrent vers la fontaine de pierre noire et s'assirent sur la margelle du bassin. Le bruissement incessant de l'eau présentait l'avantage de rendre impossible toute tentative d'interception de leur conversation.
« Des rêves prémonitoires, disiez-vous. »
J'avais prévu la fin du seigneur Ranti, et j'avais tenté de l'en prévenir. J'avais prévu que vous seriez le meurtrier de votre propre frère et des deux fils que je lui avais donnés. J'avais prévu la mort de Tiste d'Argolon et des grands courtisans de la Fronde. J'ai récemment vu l'assassinat de Barophile le 24e. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples.
Le moufti se porte comme un charme.
Une moue méprisante déforma la bouche de Dame Sibrit.
« Vous êtes un comédien médiocre, monseigneur. Le sénéchal Harcot vous a conseillé de vous débarrasser de Barophile. Mon rêve m'a même désigné son successeur, un jeune prélat manipulé par le haut vicariat. Me trompais-je ?»
Menati Imperator en appela à toutes les ressources de son contrôle mental pour ne pas dévoiler le trouble dans lequel l'avaient plongé les révélations de son époux.
« Vos visions ne peuvent-elles pas vous abuser, madame ?»«
Elles se sont toujours révélées exactes. Toujours. »
Trois des cinq satellites de la seconde nuit s'étaient déjà abîmés à l'horizon, signe que l'aube ne tarderait plus à lancer son offensive. Une lueur indécise ourlait les reliefs lointains et sombres de Vénitia, parsemés à intervalles réguliers de bulles de vigie des miradors à penser.
Le rêve de cette nuit concerne le sénéchal Harcot, reprit Dame Sibrit.
Manêtre remarquable, coupa aussitôt Menati Imperator. Dévoué, clairvoyant, discret, je n'ai qu'à me louer de son travail.
Un être abject, terrifiant, corrigea Dame Sibrit, et dont le dessein n'est pas de vous servir, pas davantage qu'il n'est de servir les humanités.
L'empereur se redressa avec vivacité et fit quelques pas sur l'allée centrale du jardin. Ses pieds glissèrent sur les gemmes scintillantes et les pans de sa cape s'enroulèrent autour de ses jambes nues.
« Mesurez vos popos, madame. Vous ne vous adressez pas à vos palefreniers de Majaï. Vous encourez un terrible danger à vous mêler des affaires de l'État. Vous n'êtes pas la mieux placée pour juger des intérêts de Langempire. »
Un bon souverain, monseigneur, est celui qui recueille les avis, quels qu'ils soient, et qui arrête ses décisions en toute connaissance de cause.
Il s'immobilisa et libéra un rire sardonique. La brise nocturne soulevait quelques boucles de ses cheveux noirs et courts. Dans l'intimité, il avait pour habitude de détacher les longues mèches torsadées et artificielles qui ornementaient le cache-tête du col-encore. au naturel, sans fond de teint, sans fard, sans nacrelle, son visage était déjà celui d'un vieillard.
« Que sais-tu des souverains, toi, la petite provinciale, toi qui aurais dû passer toute ta vie dans le purin des chigalins de ton père ?»«
Les chigalins ont un avantage sur les hommes, » répondit Dame Cybrite sans relever le tutoiement insultant qu'il avait expulsé de sa bouche comme un crachat. « Ils révèlent impitoyablement la valeur du cavalier qui les monte. Vous, vous n'avez plus aucune idée de votre valeur. » Les soi-disant conseillers dont vous vous entourez ne sont que des flagorneurs, des individus passés maîtres dans l'art de vous brosser dans le sens du poil et dont le seul but est l'augmentation régulière de leur prébende. Ils sont prêts à tout pour conserver leurs privilèges, à pousser, au besoin, leurs femmes dans votre lit. Ils ne prononcent que les mots qu'il vous plaît d'écouter et ils médisent de vous dans l'ombre des couloirs. Moi, je viens vous instruire d'une vérité qui n'est pas bonne à entendre. Acceptez-la, et vous pourrez modifier le cours des choses. Vous serez celui qui aura sauvé l'humanité de son plus grand naufrage. Votre nom sera béni et honoré pendant des siècles.
Instruisez-moi d'abord de vos intérêts en cette affaire, madame, car je suppose que vous ne me proposez pas d'être le sauveur de l'humanité sans escompter retirer quelques bénéfices personnels de votre démarche.
Vous vous méprenez sur mon compte, comme vous vous méprenez sur le compte du Sénéchal.
Eh bien, crache ta prétendue vérité et finissons-en. Je me sens là et je souhaite me reposer un peu avant la première aube.
Cela fait 16 ans que vous dormez, monseigneur, que nous dormons tous. 16 ans que vous avez remis les clés de votre empire au Sénéchal Arcote. Pendant que vous vous prélassez avec vos putains, le Sénéchal œuvre dans le secret de son laboratoire. Il a récemment rencontré quelqu'un dans les sous-sols murés du palais Ferkti-Hang. Savez-vous qui ?
Menati Imperator haussa les épaules et secoua la tête.
Pamings, l'ex-connétable du seigneur Ranti, déclara Dame Cybrite.
Le rire tonitruant de l'empereur troua le silence du jardin.
« J'ai failli un instant te prendre au sérieux, mais voilà une précision qui prouve une tendance certaine au délire schizophrénique. J'ai moi-même installé Pamings à bord du Déromate, destiné à le rapatrier sur Hipponeros. »
« Disons que vous avez installé un skaït d'Hipponeros dans ce Déromate. Mais d'une part, rien ne ressemble davantage à un skaït qu'un autre skaït. Et d'autre part, il a fort bien pu revenir sur Syracusa par ses propres moyens.
« Ça suffit !» glapit Menati. « Tu vas maintenant prendre le même chemin que Dame Véronite. Avec un peu de chance, tu la croiseras dans le couloir et tu pourras ratiociner à loisir sur la grosseur de son cul. »
Dame Cybrite prit subitement conscience de la vanité de sa démarche. L'attitude de l'empereur n'était que la résultante logique de l'action souterraine des skaït-effaceurs. Dans son rêve, elle avait vu Arcote et Pamings se livrer à une hideuse caricature de baiser. Elle avait vu les skaïts protecteurs, attirés par une silencieuse impulsion, emprunter des souterrains qui menaient près de la cuve excavée à même le sol meuble des fondations du palais Ferkti-Hang. Là, ils retiraient leur akaba blanche et se laissaient couler dans une cuve emplie d'un liquide épais et bouillant. Leurs corps se dissolvaient comme les cristaux que les joailliers impériaux trempaient dans des solutions acides pour les remodeler. Arcote, enfoui dans son akaba bleu, supervisait les opérations. Il paraissait recueillir les ondes d'énergie qui émanaient du gigantesque récipient. Puis, il se tournait vers d'autres skaïtes, brun vert, ruisselants, qui sortaient d'une deuxième cuve et s'approchaient de lui d'une allure hésitante, cahotante. Une allure qui rappelait à Dame Cybrite les premiers pas vacillants des chigalins nouveau-nés. Il posait ensuite sa bouche sur leur bouche, et ils s'abîmaient dans un long échange de données. C'était un rituel silencieux, étrange, barbare, effrayant. quelque chose qui ressemblait à une abominable genèse. Les skaïtes reconditionnés récupéraient la première akaba à leur portée, s'en allaient reprendre leur place près des humains qu'ils étaient censés protéger, et entamaient sans attendre leur patient travail de déstructuration. Ils effaçaient d'abord toute pensée négative à leur encontre, renforçaient la nécessité de leur présence, puis ils s'attaquaient aux souvenirs les plus anciens, les plus cachés. Ils procédaient par petites touches, pour ne pas donner l'éveil. Ils grignotaient la mémoire comme de minuscules rongeurs installés dans les greniers des esprits. Accablée, elle se rendait compte que Menati Imperator, le maître absolu de l'univers, n'était pas disposé à l'écouter parce qu'il était tout simplement lui-même un effacé, un abdicataire. Il négligeait les devoirs et les fonctions de sa charge parce qu'il avait renié son humanité, sa souveraineté. Il renonçait au trône de langue empire comme il avait déjà renoncé à son statut d'homme. Subitement, un voile se déchira dans l'esprit de Dame Sibrit. Un tableau vivant lui fut révélé dont elle était le personnage central. Le sénéchal Arcot lui était apparu sous la forme de Valua, le petit oursigre des légendes de Majahi, et s'était servi du pouvoir de ses rêves pour localiser les trois personnages qui résidaient sur la planète bleue des confins. Cette femme, cet homme et cette fillette représentaient le dernier espoir des humanités, et non pas, comme elle avait tenté de s'en persuader, l'empereur de l'univers. Étaient-ils les fameux guerriers du silence dont lui avait parlé l'un de ses amants d'une nuit, un jeune et fougueux serviteur? Si tel était le cas, elle avait remis sans le vouloir l'Hyponéros sur leur piste. Maintenant que le sénéchal avait obtenu ce qu'il désirait, elle était en danger. Elle ne lui était plus d'aucune utilité, et il avait le choix entre l'éliminer et l'effacer. Ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, parce qu'il avait eu besoin de l'intégralité des fonctions de son esprit.
« Tu traites les courtisanes de putains, mais elles ne font que suivre l'exemple qui leur vient d'en haut !»
siffla l'empereur dont la face bouffie s'était brusquement recouverte d'un effrayant masque de haine.
« Tu es la pire de toutes, Sibrit de Majahi. Tu es la catin suprême !» Mais pour ma part, je crois que les rumeurs qui circulent sur ton compte sont vraies. Je crois que tu es un monstre, une créature maudite, une femelle démoniaque qui se gorge du sperme et du sang de ses victimes. »
Elle leva des yeux emplis de larmes sur Menati Imperator. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, monseigneur. »
« À partir de cet instant, petite traînée provinciale, ta vie va devenir un véritable enfer. La cour ne te pardonnera pas l'outrage que tu as fait subir à Dame Véronite. Tu n'es plus protégé par mon amour. Tu n'es plus protégé par rien. Dorénavant, évite de te frotter aux hommes. Leur dard et leur sang pourraient bien être empoisonnés. Fils le camp, je ne t'ai que trop vu, que trop toléré. »
Dame Sibrit se leva. Ses jambes flageolantes se dérobèrent sous elle et elle dut se retenir à la margelle du bassin pour ne pas s'affaisser sur les gemmes scintillantes de l'allée. Les éclaireurs de l'aube se répandaient dans la plaine céleste, débusquaient les ténèbres. Les étoiles s'éteignaient l'une après l'autre, comme soufflées par une invisible bouche.
« Ayez une bonne fin de seconde nuit, monseigneur, »
bredouilla-t-elle. Titubante, elle traversa le jardin privé puis la chambre. Le même sas s'ouvrit devant elle que celui par lequel avait disparu Dame Véronite, nue et désespérée. Dame Sibrit, gouvernée par ses rêves, avait eu le tort d'être trop clairvoyante. Elle était désormais l'insupportable miroir de liberté et de lucidité dans lequel les hommes refusaient de se contempler. Elle était seule. En s'engageant dans l'étroit couloir, elle eut l'impression d'être une proie sans défense convoitée par une horde de prédateurs.